l'accent des autres avec les médias francophones publics.
Et voici les grandes lignes de l'actualité de la semaine vue par RFI, par la radio-télévision suisse, France Bleu, Radio-Canada et la RTBF. Retour d'abord sur la fête du 1er mai, un jour férié un peu partout dans le monde, ou presque, et une date qui pose question en Suisse. Pierre Anchoffat, les syndicats voudraient en faire un jour férié pour tous au niveau fédéral.
Seuls quelques cantons y ont droit et c'est déjà trop pour les jeunes libéraux qui veulent l'abolir. Alors juste compensation face au stress du travail ou coût inacceptable pour la société, le congé du 1er mai en question.
En France, c'est un jour férié partout, ça n'est pas le cas au Canada. Alors cette mobilisation du 1er mai est-elle encore importante aujourd'hui ? Va-t-on encore manifester ? Est-ce qu'on se mobilise ? Nous serons en Picardie dans quelques instants pour un reportage. 1er mai, jour férié aussi en Belgique, et une partie des livreurs de la plateforme Uber Eats en a profité de cette fête du travail pour observer deux jours de grève, Jacques Crémers.
Oui, les grévistes se sont rassemblés devant le siège d'Uber Eats mercredi 1er mai, jour de la fête du travail. Une journée internationale de revendication des travailleurs. Les livreurs réclament notamment d'être mieux payé.
Il va être question de la langue française au Canada parce que le gouvernement du Québec promet des mesures concrètes et inédites pour enrayer le déclin du français, Nadi Moubarak.
Et pour ce faire, Québec prévoit investir pas moins de 600 millions de dollars ou plus de 400 millions d'euros sur 5 ans.
On va se quitter au Mali cette semaine avec une drôle de mésaventure pour un très grand nom du cinéma africain, Nicolas Sûr.
Le réalisateur Souleymane Cissé s'est fait dérober chez lui le Carrosse d'Or, le trophée qui lui avait été décerné lors du dernier festival de Cannes, avant de le retrouver.
Voilà pour les titres de la semaine. Le 1er mai donc, tout d'abord, fête du travail, jour férié à travers le monde, dans de nombreux pays, en Europe notamment. Au Canada, c'est un peu différent, la fête des travailleurs c'est en septembre. Et puis en Suisse, Pierre, le 1er mai n'est pas férié partout.
Celui canton sur 26 y ont droit, dont deux romans, Neuchâtel et le Jura, le bassin horloger du pays, et cet ancrage industriel explique la conquête de ce jour férié dans les quelques cantons où il existe. Écoutez l'historien Mathieu Leingruber.
C'est beaucoup de cantons du nord-est de la Suisse, donc c'était un peu le poumon industriel de la Suisse du XXe siècle. C'était là où justement les syndicats industriels étaient les plus forts, où il y a eu les municipalités de gauche, comme à Zurich déjà dans les années 30 du XXe siècle. Donc en fait, ce jour férié a été, on va dire, gagné de haute lutte dans certains cantons, mais pas dans d'autres.
En clair, c'est une question de rapport de force.
Et donc aujourd'hui, il y a débat entre abolir ou étendre ce congé du 1er mai.
Exactement, la droite veut intervenir dans ces 8 cantons pour supprimer un férié qui coûterait trop cher à la collectivité, qui plus est pour favoriser des revendications politiques, ce qui dérange le vice-président des jeunes libéraux vaudois, Philippe Lurcher.
Ce jour, il est utilisé comme une plateforme politique pour la gauche et pour les syndicats aux frais de la collectivité publique. Donc, ma connaissance en Suisse, on n'a pas un jour férié de droite. Je pense qu'il est tout à fait possible de maintenir cette tradition-là, mais pas en utilisant un jour férié qui touche l'ensemble de la population.
Véronique Rebetet est membre de la direction du syndicat SINA qui a lancé une pétition pour généraliser ce jour férié. Pour elle, c'est une compensation nécessaire aux gains de productivité obtenus par les patrons.
Les travailleurs et les travailleuses sont de plus en plus soumis à une pression de moins en moins tenable. Aujourd'hui, proposer un jour férié supplémentaire, c'est apporter un tout petit peu de répit dans cette course infernale.
Des initiatives opposées qui ont peu de chances d'aboutir en raison du poids de l'histoire et du fédéralisme.
Le 1er mai, jour férié en France, et là c'est dans tout le pays. Les syndicats avaient, comme chaque année, appelé à la manifestation en souvenir des rassemblements pour la journée des 8 heures à Chicago. C'était fin du 19e siècle. Mais question, cette mobilisation est-elle encore importante aujourd'hui ? Va-t-on encore manifester ? Eh bien la tendance serait plutôt à rester chez soi et se reposer en famille. Voici le reportage en Picardie de Fanny Gelb.
Pour Guillaume, la fête des travailleurs est devenue un jour férié comme un autre. Et pourtant, il est élu syndical de son entreprise.
J'ai prévu autre chose et je serai avec les enfants, donc je ne vais pas aller manifester. Il y a tellement d'autres choses à faire que je ne vois pas le sens, franchement. Il faut faire des négociations, en l'occurrence on négocie. C'est qu'une manifestation qui porte rien de clair de toute façon.
Car finalement, pourquoi attendre le 1er mai pour s'exprimer, se demande Émilie. Ça n'a même pas traversé l'esprit de la pharmacienne de descendre dans la rue aujourd'hui.
J'ai un peu de mal avec ces dates en fait. qu'on pense à une problématique quand c'est la date. Le travail, c'est important, ça devrait être tous les jours, pas que le 1er mai en fait. Se battre pour nos droits, effectivement, c'est important. La fête du travail, c'est aussi se reposer, profiter des gens qu'on aime.
Jean-Luc est un agent EDF à la retraite. Il a été de tous les combats et il se sent un peu désabusé par les mouvements actuels.
J'ai souvent fait grève pour les 35 heures, pour rémunérer un peu mieux les heures supplémentaires. Je suis content parce que j'étais peut-être dans le bon créneau. Aujourd'hui, on a envie de se révolter, mais ça sert à rien. Sans compter qu'il n'y a aucune union, il n'y a rien du tout. C'est regrettable, c'est comme ça.
La manifestation a donc perdu sa symbolique, selon lui. Il préfère celle du muguet, dont il offrira un bouquet à sa femme.
Voilà la tradition du muguet aussi. Le 1er mai, c'était Fanny Guelbe pour France Bleu Picardie. En Belgique, une partie des livreurs de la plateforme Uber Eats ont profité de ce 1er mai, jour férié aussi, pour arrêter le travail, un mouvement pendant 2 jours en fait, le 1er mai, mais aussi la veille, Jacques.
Les livreurs d'Uber Eats, ce sont ces coursiers à vélo, flanqués d'un sac frigo sur le dos et qui vous livrent un repas commandé via votre smartphone. C'est à leur initiative que 2 jours de grève ont été décrétés, une action soutenue par leurs représentants syndicaux, 2 jours d'arrêt de travail pour dénoncer le prix des courses, invariable et insuffisant, selon Abdella, leur porte-parole.
Le prix de nos courses, c'est toujours 4,42 €. Quoi que ce soit la distance, quoi que ce soit la situation, quoi que ce soit la situation météorologique, dans une pluie, des vagues de vent, verglas, la neige, pas de différence. Peut-être on reçoit des courses de 10 km, de 8 km, 4,42 €. C'est vraiment injuste.
Les livreurs réclament une augmentation d'au moins 2 euros par course et de 50 cents au kilomètre parcouru. Mais il n'y a pas que la rémunération qui pose problème. Les livreurs peuvent aujourd'hui être exclus de l'application sans explication, sans concertation. Ils veulent pouvoir se défendre avant d'être déconnectés. Du côté syndical, on dénonce une forme d'esclavage moderne. Les livreurs doivent être déclarés comme des salariés. C'est ce que dit un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles, statuant dans une affaire concernant une autre plateforme de livraison de repas, Deliveroo. Au lieu de moins de 5 euros par course, un livreur Uber Eats, s'il était salarié, gagnerait environ 15 euros par heure de travail, sans compter le paiement de ses droits sociaux.
Et on apprend aussi que la société Uber ira en appel dans le cadre d'une affaire qui remonte à décembre dernier. 3 livreurs avaient saisi la commission de la relation de travail. C'est une instance administrative. Elle a estimé que, oui, ces livreurs doivent être considérés non pas comme des indépendants, mais comme salariés. Uber conteste donc, le tribunal du travail en Belgique devra donc se prononcer dans cette affaire.
L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Un plan pour contrer le déclin du français, ça se passe au Canada. Le gouvernement québécois a dévoilé cette semaine son plan pour freiner ce déclin de la langue française. Il prévoit d'investir plusieurs centaines de millions de dollars, Nadi.
Oui, le plan comprend 9 priorités dont découlent 21 mesures déjà mises en œuvre ou qui seront déployées au cours des prochains mois pour assurer l'avenir du français. Voici le ministre de la langue française, Jean-François Roberge.
Nous passons à l'offensive, non pas contre qui que ce soit, mais pour regagner le terrain perdu, pour inverser ce déclin du français.
Le gouvernement du Québec mise notamment sur la francisation des nouveaux arrivants. Québec propose d'augmenter le pourcentage de personnes issues de l'immigration économique connaissant la langue. La ministre de l'Immigration, Christine Fréchette.
Il faut encourager ces personnes à apprendre la langue française, à l'utiliser, à l'aimer.
La ministre de l'Immigration, donc à l'instant, une autre mesure phare, Nadi, c'est l'amélioration de l'offre audiovisuelle en ligne en français.
Tout à fait. Québec veut légiférer pour forcer les plateformes comme Netflix à présenter davantage de contenu en français. Voici le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe.
Lorsqu'on ouvre Netflix, par exemple, quand on est au Québec et qu'on ouvre cette plateforme, qu'on se retrouve au Québec. Actuellement, quand on ouvre Netflix ici, on se retrouve la plupart du temps aux États-Unis.
Il y a urgence d'agir puisque le tiers des francophones chez les 18-34 ans écoutent des émissions en ligne uniquement en anglais.
Alors Nadi, comment réagit l'opposition à la démarche du gouvernement du Québec?
Eh bien, le plan de Québec laisse l'opposition sur sa faim. Voici Pascal Paradis du Parti québécois, suivi de Madouanika Cadet du Parti libéral.
Il y avait plusieurs des annonces qui avaient déjà été faites dans les dernières semaines, dans les derniers mois. On est au plan des intentions. On n'a pas les détails encore.
Tant et aussi longtemps que le ministre et le gouvernement de la CAQ ne fera pas de la langue du travail leur priorité, ben on n'arrivera à rien.
Québec veut aussi collecter chaque année des données linguistiques sur l'état du français.
Enfin, cette mésaventure pour le cinéaste malien Souleymane Cissé, il y a tout juste un an, il recevait le Carrosse d'or à Cannes, une distinction en hommage à ses 50 ans de carrière. Un trophée qui a été volé chez lui à Bamako avant de réapparaître, Nicolas.
Oui, Souleymane Cissé découvre la disparition de son prix le 27 avril en ouvrant la boîte vide dans laquelle il était stocké depuis son retour du Festival de Cannes en mai dernier. Un choc pour le réalisateur de 84 ans qui lance en début de semaine un appel à l'aide.
Je lance un appel à tout le monde, pas seulement au voleur. Le voleur, même s'il vole, qu'il va donner ça à quelqu'un pour je ne sais pas faire quoi. Mais je tiens vraiment à ce que ce prix-là soit retrouvé, quoi. Vraiment. Je suis dépassé. C'est dur, c'est douloureux.
L'émotion est unanime. Le ministère malien de la Culture demande la mobilisation de tous pour retrouver ce qu'il qualifie de trésor national. Et voilà que vendredi, le Carrosse d'or fait sa réapparition chez Souleymane Cissé, emballé dans un sac, abîmé, sans doute déposé là par les voleurs, estime le cinéaste.
Alors au Festival de Cannes, on connaît évidemment la Palme d'or, mais Nicolas, le Carrosse d'or, de quoi s'agit-il ?
Le Carrosse d'or, qui emprunte son nom à un film célèbre du réalisateur français Jean Renoir, est décerné par la Société des réalisatrices et réalisateurs de films. Après le Sénégalais Ousmane Sambène en 2005, Souleymane Cissé, pionnier du cinéma africain, a été le second réalisateur du continent à recevoir cette récompense. Il avait aussi obtenu à Cannes le prix du jury pour son film Yélène en 1987.
Nicolas Sûr et RFI pour refermer l'accent des autres au Mali cette semaine. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Belle fin de semaine. Vous avez rendez-vous avec Pierre-Anne Chauffat la semaine prochaine. À très bientôt.